Chapitre 31. Un peu après 1 heure, je monte au premier étage avec le café que j'ai préparé. La porte est ouverte comme d'habitude. Mademoiselle Saiki, debout près de la fenêtre, une main posée sur le rebord, regarde au dehors. Perdue dans ses pensées, elle tripote les boutons de son chemisier. Je pose la tasse de café sur le bureau en remarquant qu'aucun stylo ni papier ne sont posés dessus aujourd'hui. Une fine couche de nuages recouvre le ciel et on n'entend pas les oiseaux chanter. En me voyant arriver, Mademoiselle Saiki sursaute, s'éloigne de la fenêtre, se rassied devant son bureau, boit une gorgée de café. Elle me fait signe de m'asseoir sur la même chaise qu'hier. J'obtempère et la regarde boire son café, me demandant si elle se souvient de ce qui s'est passé cette nuit. Impossible à dire. Elle a l'air à la fois de tout savoir et de ne rien savoir. Moi, je pense à son corps nu. Le souvenir de son contact me revient. Je ne pourrais même pas affirmer avec certitude que c'était bien le corps de Mademoiselle Saiki. À ce moment-là, pourtant, je savais que c'était elle. Elle porte un chemisier vert pâle, brillant comme de la soie, et une jupe moulante beige. Dans l'échancrure du chemisier, on aperçoit un fin collier en argent. Elle est très élégante. Ses doigts fins sont joliment croisés sur la table, comme un bel objet d'artisanat. « Est-ce que tu te plais dans la région ?» me demande-t-elle. « La région ? Vous voulez dire à Takamatsu ?»« Oui. »« Je ne sais pas. Je n'ai pas encore vu grand-chose de la ville. Tout ce que je connais pour l'instant, c'est cette bibliothèque, la salle de sport, la gare, un hôtel. C'est tout. » « Tu ne trouves pas cette ville ennuyeuse ?» Je secoue la tête. « Je ne sais pas. À vrai dire, je n'ai pas eu le temps de m'ennuyer depuis mon arrivée. Et puis toutes les villes se ressemblent, non ? Vous trouvez qu'on s'ennuie à Takamatsu, vous ?» Elle hausse imperceptiblement les épaules. « Je le pensais quand j'étais jeune. Je voulais m'en aller d'ici. Je voulais vivre dans un endroit où il se passerait des choses plus intéressantes. » « Où il y aurait des gens plus intéressants ?» Elle secoue légèrement la tête. « J'étais jeune, » dit-elle. « La plupart des jeunes gens ont ce genre de pensée. Pas toi ?»«
Je ne me suis jamais dit ça. Je n'ai jamais pensé que des choses plus intéressantes m'attendaient ailleurs. Je voulais juste partir, ne plus être là où j'étais, et je ne réfléchissais pas plus loin. »«
Ne plus être là où tu étais ?»
C'est-à-dire, à Tokyo, Nogata, dans l'arrondissement de Nakano. C'est là que je suis né.
J'ai cru voir quelque chose traverser ses pupilles au moment où elle m'entendait prononcer le nom de ce quartier. Mais je n'en suis pas sûr. L'endroit où tu irais une fois que tu serais parti t'importait peu ?
Oui, ce n'était pas un problème. Je me disais que je serais fichu si je ne m'en allais pas. Alors je suis parti.
Elle regarde ses deux mains posées sur la table. Un regard tout à fait objectif. Puis, elle dit doucement « Je me suis dit la même chose à 20 ans, quand je suis partie d'ici. Je pensais que si je restais ici, je ne survivrais pas. J'étais sûre que je ne reverrais plus jamais cet endroit. Je n'envisageais vraiment pas de revenir. Mais il s'est passé certaines choses et voilà. » Finalement, j'ai dû revenir et tout recommencer à zéro ici. Elle se retourne, jette un coup d'œil vers la fenêtre ouverte. Les nuages qui couvrent le ciel n'ont pas changé de teinte. Il n'y a pas un souffle de vent. Tout est parfaitement immobile. On dirait un décor de cinéma. Dans la vie, il arrive un tas de choses auxquelles on ne s'attend pas, dit Mademoiselle Saiki.
Vous voulez dire qu'un jour, je serais peut-être obligé de retourner à mon point de départ ?
Je n'en sais rien, naturellement. Il s'agit de toi. Et si cela devait arriver, ce serait dans un futur encore lointain. Mais je me dis que le lieu où l'on est et celui où l'on meurt sont très importants. Bien sûr, on ne choisit pas le lieu de sa naissance. Mais dans une certaine mesure, on peut choisir celui de sa mort. Elle parle tranquillement, toujours tournée vers la fenêtre. On dirait qu'elle s'adresse à une personne imaginaire au dehors. Puis, elle se tourne à nouveau vers moi, comme si elle venait de se rappeler ma présence. Je me demande pourquoi je te confie tout cela. Sans doute parce que je ne suis pas d'ici et que nous avons une grande différence d'âge. Oui, peut-être, admet-elle. Pendant 20 ou 30 secondes, nous restons plongés dans nos pensées. Elle reprend sa tasse et boit une autre gorgée de café. Je décide d'être direct et dis « Mademoiselle Saeki, je crois que moi aussi j'ai un aveu à vous faire. » Elle me regarde, puis sourit. « Nous échangeons des secrets, c'est cela ?»«
En ce qui me concerne, ce n'est pas vraiment un secret, plutôt une hypothèse. »«
Une hypothèse ?» répète-t-elle. « Tu veux me confier une hypothèse ?»«
Oui. »
C'est amusant.
C'est à propos de ce que vous me disiez tout à l'heure. Êtes-vous revenu dans cette ville pour y mourir, Mademoiselle Saeki?
Un faible sourire flotte sur ses lèvres, telle une lune d'argent à l'aube.
Peut-être. Mais cela n'a pas d'importance.
Qu'on vienne dans un lieu comme celui-ci pour vivre ou pour mourir, le quotidien se déroule toujours de la même manière.
Est-ce que vous avez envie de mourir, Mademoiselle Saeki?
Je ne le sais pas moi-même, dit-elle.
Mon père voulait mourir.
Tu as perdu ton père?
Oui, récemment, dis-je. Tout récemment.
Pourquoi ton père voulait-il mourir? Je prends une profonde inspiration.
Pendant longtemps, je n'ai pas compris pourquoi. Mais maintenant, je le sais enfin. Je l'ai compris lorsque je suis arrivé ici.
Pourquoi alors?
Je pense que mon père était amoureux de vous. Mais il n'a pas réussi à vous faire revenir vers lui. Ou bien peut-être qu'il n'a jamais pu vous posséder. Il le savait. C'est pour cela qu'il voulait mourir. Et il voulait mourir de la main de son fils, de votre fils. Et il voulait que je couche avec vous et avec ma sœur aînée. C'était sa prédiction, sa malédiction, et il l'a programmée à l'intérieur de moi.
Mademoiselle Saeki repousse dans la soucoupe la tasse qu'elle tenait à la main. Un tintement opaque résonne dans la pièce. Elle regarde droit vers moi, mais ce n'est pas moi qu'elle voit. Elle fixe le vide devant elle. « Je connais ton père ?» demande-t-elle. Je secoue la tête.
Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une hypothèse.
Elle pose les deux mains sur la table, l'une sur l'autre. La trace d'un sourire s'attarde au coin de ses lèvres. Dans cette hypothèse, je suis ta mère, n'est-ce pas?
Oui. Vous avez vécu avec mon père, vous m'avez mise au monde et vous êtes partie en m'abandonnant. L'été de mes 4 ans.
C'est ton hypothèse. Je hoche la tête. C'est pour cela que tu m'as demandé hier si j'avais des enfants. Je hoche la tête à nouveau. Et je t'ai dit que je ne pouvais pas te répondre simplement par oui ou par non, si bien que ton hypothèse reste une pure hypothèse.
Oui.
Et ton père? Comment est-il mort?
Assassiné.
Ce n'est pas toi qui l'as tué, au moins.
Non. Je ne l'ai pas touché. Si on considère strictement les faits, j'ai un alibi.
Mais tu n'es pas certain de ton innocence? Je secoue la tête.
Non. Je n'en suis pas certain.
Mademoiselle Saeki soulève à nouveau sa tasse, boit encore une gorgée. Je suis sûr qu'elle n'en sent pas le goût. Pourquoi ton père t'aurait-il jeté une telle malédiction?
Je pense qu'il voulait me transmettre sa volonté.
Sa volonté que tu me désires?
C'est cela.
Mademoiselle Saeki scrute le fond de la tasse qu'elle tient à la main, puis lève la tête et me regarde. Et Tu me désires ? Je hoche la tête une seule fois. Elle ferme les yeux et moi je regarde ses paupières closes. À travers elles, je peux voir les ténèbres qu'elle contemple. Il y flotte un tas de dessins étranges qui s'élèvent puis disparaissent tour à tour. Au bout d'un moment, elle rouvre lentement les yeux. « Toujours selon ton hypothèse ?»«
Non, je vous désire vraiment, et cela a dépassé de loin le stade de l'hypothèse. »
« Tu as envie de faire l'amour avec moi ?» Je hoche la tête. Mademoiselle Saeki plisse les yeux comme si elle regardait quelque chose d'éblouissant. « Tu as déjà fait l'amour avec une fille ?» Je hoche la tête. « Oui, la nuit dernière avec vous. Mais je suis incapable de formuler cette pensée tout haut. Elle ne se souvient de rien. » Elle pousse un vague soupir. « Mais, Kafka Tamura, puis-je te rappeler que tu as 15 ans et que j'en ai plus de 50 ?»«
Le problème ne se résume pas à ça. Il ne s'agit pas de ce temps-là. Je vous connais telle que vous étiez à 15 ans, mademoiselle Saeki. Et je suis amoureux de celle que vous étiez à cet âge. Profondément amoureux. Et, à travers elle, je suis amoureux de vous maintenant. Cette jeune fille vit toujours en vous. Elle dort en vous. Mais quand vous vous endormez, elle revient à la vie et moi, je la vois. »
Mademoiselle Saeki ferme à nouveau les yeux. Ses paupières tremblent légèrement.
« Je suis amoureux de vous et c'est très important pour moi. Je voulais que vous le sachiez. »
Elle pousse un grand soupir, comme quelqu'un remontant à la surface de la mer, puis elle cherche ses mots. Mais elle ne les trouve pas.
« Kafka, excuse-moi. « Tu ne voudrais pas me laisser seule un moment ?»
finit-elle par dire.
« Referme la porte derrière toi, s'il te plaît. »
Je hoche la tête, me lève, m'apprête à sortir.
Mais quelque chose me retient.
Je m'arrête, me retourne et traverse la pièce pour m'approcher d'elle. Je pose ma main sur ses cheveux. Mes doigts effleurent sa petite oreille qui pointe entre les mèches. Je ne peux pas m'en empêcher. Elle lève la tête, l'air surpris, puis après une brève hésitation, pose sa main sur la mienne.
Quoi qu'il en soit, toi et ton hypothèse avez atteint une cible bien plus lointaine que tu ne l'imagines.
En as-tu conscience ? Je hoche la tête.
Je sais, mais les métaphores permettent de réduire la distance, dis-je.
Ni toi ni moi ne sommes des métaphores.
Je sais. Mais les métaphores permettent de réduire la distance qui nous sépare, vous et moi. »
Elle sourit, la tête levée vers moi. C'est la phrase la plus étrange qu'un homme m'ait jamais dite pour me séduire.
Tout est de plus en plus étrange. En même temps, j'ai l'impression de me rapprocher de la vérité.
Tu veux dire te rapprocher réellement d'une vérité métaphorique ou te rapprocher métaphoriquement d'une vérité réelle. Ou peut-être que les deux sont complémentaires.
De toute façon, je ne peux pas supporter plus longtemps la tristesse dans laquelle me plonge cette situation, dis-je.
Moi non plus.
Donc, vous êtes revenu ici pour mourir ?
Elle secoue la tête. Je ne cherche pas à mourir, à vrai dire. J'attends simplement la mort, comme si j'étais assise sur un banc dans une gare et que j'attends d'un train.
Savez-vous à quelle heure le train doit passer ?
Elle retire sa main de dessus la mienne et se presse les paupières. Tu sais, Kafka, j'ai beaucoup usé ma vie jusqu'à maintenant. Je me suis usé moi-même. À un certain moment, j'aurais dû cesser de vivre, mais je ne l'ai pas fait. Je savais que ma vie n'avait plus de sens, mais j'ai continué quand même. J'ai continué à faire des choses absurdes, simplement pour passer le temps. Je me suis blessé, et j'ai blessé les autres aussi. J'en paie le prix maintenant. On peut aussi appeler ça une malédiction. Ce que j'ai possédé à un moment de ma vie était trop parfait, et lorsque je l'ai perdu, je n'ai rien pu faire d'autre que me laisser sombrer. C'est cela ma malédiction. Tant que je vivrai, je ne pourrai pas y échapper. Voilà pourquoi la mort ne me fait pas peur. Et pour répondre à ta question, oui, je sais à peu près à quelle heure le train passera. Je prends à nouveau sa main dans la mienne. La balance oscille. Il suffit de rajouter un tout petit peu de poids pour la faire pencher d'un côté ou de l'autre. Il faut que je réfléchisse. Il faut que je prenne une décision. Il faut que j'agisse. Mademoiselle Saiki, accepteriez-vous de coucher avec moi? Même si, selon ta théorie, je suis ta mère? J'ai l'impression que tout est en déplacement perpétuel autour de moi, que tout a un double sens. Elle réfléchit un moment à ce que je viens de dire, puis... Mais ce n'est peut-être pas le cas pour moi. Pour moi, les choses ne sont pas aussi nuancées. C'est plutôt une question de tout ou rien. Et vous savez si c'est tout ou si c'est rien? Elle hoche la tête. Est-ce que je peux vous poser une question, mademoiselle Saiki? Oui. Où avez-vous trouvé ces accords? Ces accords? Les deux accords du refrain de Kafka sur le rivage. Elle me regarde. Ils te plaisent? Je hoche la tête. Je les ai trouvés dans une vieille chambre, loin, très loin d'ici. La porte de cette pièce était ouverte à ce moment-là, dit-elle paisiblement. Une chambre lointaine, si lointaine. Elle ferme les yeux, plonge dans ses souvenirs. Kafka, ferme la porte en sortant, veux-tu ? Dit-elle. Et c'est ce que j'ai fait.